Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bienvenue. Il y aurait entre 600 et 700 000 personnes sans papier en France. Même s'il est par définition difficile d'avoir des données fiables, c'est un chiffre cité par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et pour beaucoup d'entre elles, ces personnes travaillent. Elles forment un monde invisibilisé, sans droit, un monde qu'on retrouve un peu partout en Europe, on va le voir, et que notre invité a exploré pendant 2 ans en France. Bonjour Nejma Brahim.
Bonjour Juliette.
Vous êtes journaliste à Mediapart, vous suivez les questions migratoires et vous avez écrit 2 euros de l'heure aux éditions du Seuil, une enquête qui nous emmène à la rencontre des travailleurs de l'ombre et qui décrypte tout un système. Il y a en effet des gens qui gagnent 2 euros de l'heure en France. Comment ça marche ?
Oui, effectivement. Alors après, c'est un chiffre qui, évidemment, peut varier en fonction des travailleuses et des travailleurs, en fonction des secteurs aussi. Mais quand les personnes sont amenées à travailler notamment au noir, donc sans être déclarées, ou encore en utilisant un faux document d'identité, ce qui arrive aussi dans ces stratégies de contournement que les personnes sans papier peuvent mettre en place pour parvenir à travailler en France malgré leur statut, eh bien, effectivement, elles sont souvent exploitées par les employeurs et donc largement sous-payées. Et ça donne effectivement des salaires horaires qui sont bien loin de la réglementation liée au droit du travail en France.
Concrètement, comment ça se passe ? Alors, on a des systèmes du type sous alias, expliquez-nous.
Oui, alors il y a différentes façons de travailler pour les personnes sans papier. Donc, je l'ai dit, il y a la méthode, disons, la plus connue qui est le travail au noir, donc sans être déclaré. Et alors là, c'est souvent dans ce type de cas qu'on retrouve des salaires très très bas. C'est le cas notamment dans le secteur du BTP, la construction, où on va prendre des personnes pour des missions à la journée. On les trouve le plus souvent d'ailleurs directement devant les magasins de bricolage comme la plateforme du bâtiment, le Roi Merlin en région parisienne par exemple. Et donc elles vont travailler toute la journée de 7h du matin jusqu'à assez tard le soir en étant payées 40 ou 50 euros la journée. Il y a le travail sous alias. Alors ça, c'est un peu moins connu. En fait, ça consiste à emprunter, si je puis dire, l'identité d'un autre ou d'une autre qui, lui ou elle, dispose d'un titre d'identité, par exemple un titre de séjour. Donc il faut qu'il y ait évidemment une ressemblance physique. Il faut ressembler à la personne qui est sur la photo, sur le document d'identité. Et ensuite, il faut que ça passe auprès de l'employeur. Alors, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que un certain nombre d'employeurs, mais aussi les agences intérim qui participent au recrutement des personnes étrangères en France, savent très bien que le travail sous alias existe et encouragent même parfois les travailleurs à emprunter les documents d'un autre. Et puis, il y a l'utilisation parfois d'un faux document d'identité qui peut s'acheter sur le marché noir, disons. À Paris, il y a des boutiques qui sont connues pour ça. Et on peut se procurer un faux titre de séjour, voire une fausse carte d'identité française pour la somme de 300 à 400 euros. Ce sont à peu près les prix. Et là aussi, parfois, ce sont les employeurs eux-mêmes ou les agences intérim qui dirigent les travailleurs vers ces lieux.
Et ça concerne quel secteur ? Alors, on connaît le cas du BTP, il y en a d'autres ?
Oui, alors en plus du BTP ou de la restauration, on retrouve des personnes sans papier, par exemple, en tant qu'agent d'entretien dans les trains de la SNCF, par exemple, en tant qu'employé dans les supermarchés, comme les magasins Super U, à l'hôpital public, ce qui est beaucoup plus étonnant, et encore bien d'autres secteurs.
Avant de poursuivre, Nejma Brahim, je vous propose qu'on aille en Italie, un pays qui compte environ 80% d'emplois non déclarés sur les chantiers du secteur du BTP. En février, un accident a coûté la vie à 5 ouvriers sur un chantier de Florence, dont plusieurs migrants sans papier, ce qui a relancé le débat sur les nombreux abus dont ces derniers sont victimes. À Rome, Olivier Bonnel.
Originaire de Guinée, Fatoumata est arrivée en Italie en 2014. Pendant des années, elle a enchaîné des petits boulots dans l'hôtellerie, la restauration ou encore l'aide à domicile. Mais sa dernière expérience professionnelle lui a laissé un goût amer. En septembre 2022, elle vient dans une zone industrielle près de Rome pour y travailler dans une coopérative, chargée de mettre sous vide de la viande pour le compte d'une des principales chaînes de supermarchés italiens. Un contrat précaire, des cadences de travail épuisantes.
Mon premier jour, on a fini vers les 22 heures. Deuxième jour, c'était comme ça. Et le travail là-bas, c'était du lundi au samedi. Mais dans le contrat, c'est écrit du lundi au vendredi. Mais si tu ne viens pas aussi travailler le samedi, on t'enlève 50 euros dans le salaire qu'ils doivent te donner. Et les personnels là-bas sont au nombre, on est d'une centaine de personnes, des Asiatiques, des Africains immigrés, on était tous des immigrés. Chaque fois, les contrats qu'on me donnait, c'était un contrat de 2 mois, de 3 mois, parfois même de 2 semaines. J'ai subi tout ça là-bas.
Sur certaines de ses fiches de paye, Fatoumata ne voit que 4 heures de travail déclarées par jour, alors qu'elle en fait plus du double. Elle reçoit aussi de l'argent en liquide. À force d'enchaîner des contrats précaires, la jeune femme a fini par se retourner contre son employeur.
Je suis venu poser la question, je suis dit, mais pourquoi vous me donnez des petits contrats, vous ne me donnez pas des contrats indéterminés? Pourtant, les gens avec lesquels je suis venu ici, ceux-ci ont bénéficié des contrats indéterminés. Ils ont dit non, ici c'est comme ça. Ils ont vu que j'ai créé beaucoup de problèmes maintenant. J'ai demandé beaucoup de choses sur mes droits et ils n'aimaient pas cela.
Fatoumata est loin d'être un cas isolé en Italie où des dizaines de milliers de travailleurs étrangers subissent cette précarité, que ce soit dans le secteur de la construction, de l'agriculture ou de l'industrie agroalimentaire. Mais derrière la question de la régularisation, les entorses régulières au droit du travail, sur nombre de chantiers notamment, rajoutent un problème supplémentaire aux travailleurs migrants, une situation que déplore Bruno Giordano, ancien directeur de l'inspection du travail dans la péninsule.
Les plus précaires sont bien sûr les travailleurs étrangers, que cela concerne leur irrégularité sur le territoire italien ou le fait qu'ils ont moins de protection. Ils n'ont d'ailleurs pas la possibilité de connaître les droits en matière de protection du travail qui leur sont dus.
Quel que soit le secteur, chantier public ou entreprise privée, le monde du travail italien recourt en masse à la sous-traitance. Et la dernière réforme du Code des marchés publics, votée l'an passé, a même aggravé la situation, selon Bruno Giordano.
Cette réforme rend les travailleurs encore plus précaires et plus faibles, car elle a permis, par exemple, qu'un chantier public puisse faire appel à un nombre infini de sous-traitants, ce qui a conduit les petites entreprises, qui veulent remporter un appel d'offres, à contraindre leurs ouvriers à accepter des salaires et des conditions de sécurité à la baisse.
Les principaux syndicats italiens plaident depuis plusieurs années pour une régularisation massive des travailleurs d'origine étrangère, arguant du fait que cela ferait du bien à l'économie italienne en faisant rentrer des taxes et des cotisations dans les caisses de l'État. Il demande aussi l'abrogation de la loi Bossi-Fini. Selon cette loi votée en 2002, un étranger n'a plus le droit de rester sur le sol italien lorsqu'il perd son contrat de travail. De nombreux étrangers sont alors exploités par des entreprises peu scrupuleuses, mais en demande de main-d'œuvre. Pour l'opposition italienne, le gouvernement ne fait rien pour améliorer la situation des travailleurs étrangers. Bien au contraire, les besoins économiques du pays ne sont même pas pris en compte, souligne Chiara Gribaudo, députée du Parti démocrate. Elle est la présidente de la commission parlementaire sur les conditions de travail en Italie.
Il est évident que dans certains secteurs comme la restauration, l'agroalimentaire ou les soins à domicile, la main-d'œuvre étrangère est désormais indispensable, notamment parce que les Italiens aspirent, à juste titre, à travailler dans des secteurs plus rémunérateurs. Un bon gouvernement devrait aujourd'hui veiller à la sécurité et aux conditions salariales des travailleurs et travailleuses, qu'ils soient italiens ou étrangers, car le travail non déclaré et irrégulier alimente une guerre entre les pauvres et une concurrence déloyale entre les entreprises, ce qui n'est pas bon pour le pays.
Lutte contre le travail au noir et le travail forcé ou encore amélioration des conditions de sécurité sur les lieux de travail. La route est encore longue en Italie pour que les travailleurs étrangers aient une vie plus digne, eux qui représentent plus de 10% de la main-d'œuvre dans la péninsule.
Olivier Bonnel à Rome. Nejma Brahim, ce reportage résonne directement avec votre livre, l'expérience que vous avez eue ici en France ?
Oui, complètement, vraiment. On retrouve exactement les mêmes formes d'exploitation des personnes étrangères, en l'occurrence sans papier, pour la simple et bonne raison que quand elles n'ont pas de papier, elles sont forcément vulnérables et à la merci des personnes qui souhaiteraient profiter d'elles. Et effectivement, on retrouve les mêmes mécanismes qui se mettent en place, les mêmes dangers pour les travailleurs, puisqu'il y a aussi des décès. Et dans le livre, je raconte l'histoire de Roland, qui n'a d'ailleurs pas été médiatisé jusqu'ici. Cet Ivoirien qui est mort sur un chantier de BTP en plein Paris, en plein jour, après une chute de plusieurs mètres. Ce sera d'ailleurs un futur lieu culturel qui sera amené à accueillir du public. Mais personne ne saura qu'un ouvrier est mort sur ce chantier et malheureusement, ça n'est pas le seul. Et par ailleurs, on l'entendait dans ce reportage, finalement, la main-d'œuvre étrangère et notamment sans papier, elle est utile y compris pour l'organisation de certains événements. Et on pense à Paris, évidemment, au JO. Et là aussi, et ça a été médiatisé pour le coup ces derniers mois, de nombreux sans-papiers ont été exploités pour la construction des infrastructures liées au JO.
Vous avez fait allusion à l'hôpital et il y a une histoire incroyable dans votre livre, celle d'une femme médecin qui travaille régulièrement dans un hôpital public et se retrouve soudain en situation totalement irrégulière. Racontez-nous.
Oui, c'est une histoire pour le coup qu'on a du mal à imaginer et même à soupçonner. C'est l'histoire de Hajar, donc cette médecin tunisienne qui est venue légalement sur le territoire français, donc avec un visa. Et d'ailleurs, elle n'avait pas eu de mal à trouver un emploi dans les hôpitaux publics parisiens de la région parisienne, puisque il manquait de main d'œuvre à l'époque. Donc elle raconte qu'elle a été recrutée d'une manière assez rapide et plutôt aisée. Et puis, de fil en aiguille, les mois passant, elle se trouve dans une situation complètement complètement inextricable où elle n'arrive pas à obtenir le renouvellement de son titre de séjour au niveau de la préfecture. Et alors là, c'est un cercle infernal qui se met en place. Elle se retrouve sans papier en travaillant en tant que médecin à l'hôpital public pendant 8 mois, ce qui est quand même énorme. Alors entre-temps, elle passe le concours qu'elle obtient d'ailleurs brillamment. Elle change d'hôpital et puisqu'elle obtient le concours, elle doit changer encore une fois d'hôpital pour rejoindre son hôpital d'affectation. Et donc, elle continue à être, invisible parmi les invisibles, sans papier. La principale difficulté, c'est que s'il se passe quoi que ce soit, une erreur médicale et éventuellement des poursuites, eh bien, elle n'est pas couverte par l'administration de l'hôpital. Et l'administration de l'hôpital ne semblait pas batailler outre mesure pour l'aider à régler ses problèmes avec la préfecture. Et finalement, c'est ce fameux épisode à la préfecture où elle décide de se rendre un jour parce qu'elle n'en peut plus et où elle découvre qu'elle fait l'objet d'une OQTF, les fameuses obligations de quitter le territoire français, dont on a entendu parler ces deux dernières années, je dirais, puisque Gérald Darmanin en parle beaucoup dans les médias, qui sont souvent attribués aux personnes dites délinquantes, les étrangers dits délinquants. Là, en l'occurrence, elle était médecin et elle ignorait qu'elle faisait l'objet de cette OQTF puisqu'elle avait déménagé, mais surtout puisque la préfecture lui avait pourtant répondu qu'elle aurait bientôt une réponse pour son titre de séjour sans lui dire qu'elle faisait l'objet d'une OQTF. Et elle raconte cette forme de violence institutionnelle au sein de la préfecture où une responsable lui parle très mal. Et c'est finalement, en alertant notamment les confrères, les consoeurs, que l'ARS puis le ministère de la Santé sont alertés de sa situation et font pression sur le ministère de l'Intérieur pour faire sauter l'OQTF.
Vous dites dans votre livre que quelque part on fabrique un peu aussi des sans-papiers, à force peut-être de refus, d'acceptation, de régularisation. Il y a des pays qui régularisent
Oui, il y a des pays qui régularisent. Ça a été le choix de l'Espagne, de l'Allemagne il y a quelques années. La France d'ailleurs a suivi, je dirais. C'est de là, je pense, qu'est né ce fameux article 3 qui visait à la régularisation des travailleurs sans papiers qui évoluent dans les métiers en tension. Mais on est encore bien loin de ce qu'il faudrait faire pour, quand même, on parle de 700 à 800 000 personnes sans papiers sur le territoire français, dont on doute qu'une grande partie d'entre eux travaillent pour pouvoir survivre, tout simplement, et qui font face à des rejets en cascade de la préfecture, malgré des parcours qui sont exemplaires, comme ceux que je peux décrire dans le livre, OQTF sur OQTF, dépôt de demande de régularisation rejetée, et donc des personnes qui devraient, logiquement, puisqu'elles ont démontré toutes les preuves de leur insertion dans la société française, devraient pouvoir aspirer à obtenir un titre de séjour, mais n'y parviennent pas. Et puis fabriquent des sans-papiers parce que des personnes qui étaient là en situation tout à fait régulière sur le territoire, le plus souvent avec un titre de séjour, du jour au lendemain, bascule dans l'irrégularité à cause des manquements, si je puis dire, de la préfecture qui a du mal à traiter les dossiers. Je pense manque aussi de moyens humains, clairement. Mais c'est aussi un choix, parce que quand on veut, on peut, on met des moyens. Et donc, du jour au lendemain, leur titre de séjour expire et elles se retrouvent sans papier en France. Et c'est le cas, par exemple, d'AESH dans les établissements scolaires, de médecins qui travaillent dans les hôpitaux publics et encore bien d'autres métiers et secteurs.
Des métiers et secteurs qui cherchent à embaucher. La pénurie de main-d'œuvre, on le sait, touche la France, mais quasiment tous les pays de l'Union européenne. D'ailleurs, la Grèce en fait partie. Et pour répondre aux besoins de l'agriculture et du bâtiment, notamment, Athènes a mis en place récemment un nouveau titre de séjour destiné aux personnes sans papier. Elle serait environ 30 000 dans ce pays. Écoutons, Nejma Brahim, les explications de notre correspondant Joël Brunner.
3 ans. Voilà la durée du nouveau type de carte de séjour que la Grèce vient récemment de mettre en place. Ce titre de séjour non renouvelable s'adresse à des personnes sans papier qui peuvent déjà justifier d'une promesse d'embauche. Cette carte reste ensuite valable uniquement si la personne qui la détient continue à travailler. En tout état de cause, comme le souligne le communiqué officiel des autorités grecques, ce permis ne donne droit ni au regroupement familial, ni à la résidence permanente, ni encore à la naturalisation, comme cela peut être le cas en Allemagne, spécifie encore le document. Dimitris Kéridis, le ministre des Migrations, justifie cette mesure en expliquant qu'il y a de nombreux emplois que les Grecs n'occupent pas, comme c'est aussi le cas chez les Italiens ou les Espagnols. Le ministre conclut sa comparaison avec les voisins européens en ajoutant « On ne fait pas exception à la règle en refusant d'aller travailler dans les champs ». De son côté, un porte-parole du gouvernement grec précise qu'il s'agit en effet, avec ce nouveau titre de séjour, de répondre aux besoins du marché national en matière de main-d'œuvre. Prenons l'exemple de l'agriculture. Chaque année, la Grèce estime avoir besoin de quelques 180 000 travailleurs agricoles. Pour les trouver, Athènes puise déjà notamment dans un vivier de travailleurs étrangers venus spécialement d'Albanie, du Bangladesh, d'Égypte ou encore d'Inde, en vertu d'accords bilatéraux avec ces pays. Mais pour compléter les besoins, une partie de la main-d'œuvre disponible se trouve parmi les personnes sans papier déjà présentes sur le territoire grec, à l'image de certains déboutés du droit d'asile. C'est donc précisément pour faire travailler légalement ces derniers, notamment dans les champs, que la Grèce vient de se doter de ce nouveau type de carte de séjour.
Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative grecque, Nejma Brahim ?
Écoutez, je trouve que ça rejoint un peu ce qu'on a pu voir en France avec le titre de séjour sur les métiers en tension, sauf que nous, on a un petit peu échoué, je trouve, et c'est aussi l'avis de nombreux collectifs de sans-papiers. En réalité, ça marque finalement une forme de reconnaissance sur le fait qu'on a un besoin de travailleurs en France dans de nombreux secteurs et que la main-d'œuvre est déjà finalement en France. Il y a pas mal de secteurs, pour la France, je citerai celui de la restauration ou de l'agriculture, qui ont été désertés par les Français. Les personnes étrangères sont un peu les seuls qui acceptent ces métiers pénibles, aux horaires compliqués, on pense à la restauration où les horaires sont particulièrement difficiles, et pas très bien payés. Une fois que ce constat a été fait, je pense qu'il faut effectivement, comme la Grèce l'a fait, mettre en place un certain nombre de mesures. Nous, ce qui s'est passé en France, c'est que l'article 3 a quand même été assez détricoté par les parlementaires notamment.
L'article 3 de la loi immigration qui vient d'être promulguée et qui a été considérablement modifié par rapport à son projet d'origine.
Exactement. C'était un article donc qui visait à régulariser les personnes qui travaillaient dans des secteurs sous tension. La liste d'ailleurs doit encore être révisée et il se trouve que beaucoup de critères ont été ajoutés pour pouvoir répondre au profil, disons. Et surtout, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on est très près de ce qui existait déjà. On reste finalement dans un schéma où les demandes sont à l'appréciation des préfets. On n'a pas créé un droit opposable à la régularisation. Donc on est encore dans quelque chose de très limité, malheureusement.
Ouais. Sur le plan économique, à qui ça profite ?
À qui ça profite ? Alors en premier lieu, c'est très simple, ce sont les employeurs. Ce sont les grandes entreprises qui aujourd'hui ont recours aux personnes sans papier. La sous-traitance a une place très très importante, il ne faut pas négliger le rôle des agences intérim également. Mais avec l'assentiment des grosses entreprises qui savent parfaitement qu'au sein des effectifs qui travaillent pour elles, il y a des sans-papiers. Et là je citerai la SNCF et Moussa qui travaillent en tant qu'agent d'entretien dans les trains, qui passent pour ramasser les déchets, qui nettoient les WC. Et puis en second lieu, je pense que ça profite un petit peu aussi à l'État qui, d'une part, veut satisfaire les entreprises, garder une économie forte, ne veut pas voir ses entreprises désertées et délocalisées pour partir à l'étranger. Et aussi, sur le plan, je dirais, purement politique, de l'opinion publique qu'il faudrait peut-être caresser dans le sens du poil. Aujourd'hui, on voit bien que les personnes étrangères sont pointées du doigt régulièrement, un peu comme les responsables de tous les maux de notre société. Et donc, accepter, disons, une campagne de régularisation relativement importante, voire massive, ce serait pour le gouvernement actuel se tirer une balle dans le pied, je pense.
Paradoxalement, ça a aussi un coût pour l'État. Vous évoquez cette question, c'est difficile à quantifier, dites-vous, mais vous citez quand même des chiffres de 4 à 6 milliards d'euros de manque à gagner. À quoi ça correspond ?
Manque à gagner pour, effectivement, les caisses de sécurité sociale notamment. Oui, l'État, je pense, est prêt à accepter de perdre un petit peu pour satisfaire que ce soit les employeurs ou l'opinion public qui aujourd'hui se montre défavorable à l'accueil des étrangers. C'est un manque à gagner qui est difficilement chiffrable puisque par définition ce sont des travailleurs invisibles. Mais c'est pas anodin, je trouve, qu'il n'y ait pas de chiffres définitif sur cette question, qu'il n'y ait pas eu d'enquête. Même les chercheurs avouent qu'il y a une forme d'angle mort dans la recherche française sur ce sujet-là. Évidemment, c'est complexe, mais je crois que c'est absolument nécessaire pour se rendre compte du travail qui est aujourd'hui fourni par les travailleurs sans papier en France, ce qu'ils font pour nous au quotidien, et puis pour vraiment mettre la lumière sur ce phénomène, et puis peut-être y mettre un jour un coup d'arrêt et permettre à ces personnes de pouvoir vivre sereinement en France avec un document d'identité, sans devoir être caché.
Merci Nejma Brahim d'être venue dans Accent d'Europe. Je rappelle le titre de votre livre, 2 euros de l'heure, sous-titré La face cachée de l'intégration à la française. C'est paru aux éditions du Seuil.
Merci.
Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Retrouvez l'émission sur l'appli Pure Radio et sur le site rfi.fr. À très bientôt.